de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gérer les conflits, cerner son interlocuteur. Tout le monde en a fait l'expérience un jour, dans le voisinage, au travail, dans la famille. Les petits conflits peuvent vite prendre de l'ampleur si on ne sait pas les gérer. Un ami qui vous doit de l'argent, un chef qui vous fait des promesses qu'il ne tient pas, un village qui se dispute pour un bien foncier. On va voir avec nos invités spécialistes de la gestion de conflits comment écouter l'autre, comment se faire entendre, comment exprimer ses besoins, ses demandes, et puis comment aussi le langage du corps peut permettre de mieux cerner son interlocuteur et de gérer certaines situations tendues. Brigitte Kerrer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice, vous avez travaillé dans la gestion de conflits internationaux et vous publiez La médiation, un nouveau projet de société, se réconcilier avec ses contraires. Et aujourd'hui, vous travaillez notamment pour des entreprises, par exemple. Élodie Mielzarek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue. C'est quoi, sémiologue ?
Alors, la sémiologie, c'est une discipline issue de la linguistique. Donc, c'est l'analyse des signes au sens large, aussi bien les mots que effectivement les symboles et les gestes.
La façon dont je vous regarde, dont je tends la main en vous regardant, par exemple.
Exactement,
pour ceux qui regardent la vidéo.
Tout à fait.
Et vous publiez la stratégie du caméléon, s'adapter à tous les profils grâce à la communication non verbale aux éditions Cherche Midi. Caméléon, comme ce petit lézard qui change de couleur. D'ailleurs, il change de couleur pourquoi, le caméléon ?
En définitive, c'est une grande capacité d'adaptabilité à son environnement et pour échapper aussi aux prédateurs. Donc, c'était une métaphore qui me paraissait assez judicieuse et une nécessité dans les relations humaines, justement, de pouvoir s'adapter et caméléonner, si vous me permettez.
Alors, si on ne peut pas changer son interlocuteur, on peut soi-même changer face à son interlocuteur, quoique vous avez tout de même des théories, des conseils pour faire évoluer son interlocuteur, celui qui est à la cause, à la du conflit, en tout cas. Et quant à vous, les voisins et les voisines, c'est le moment de nous appeler pour nous parler de vos relations avec les autres, s'il y a de l'électricité dans l'air. Surtout, appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71, c'est le téléphone WhatsApp. Et vous pouvez aussi poster des messages écrits pour les plus timides.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et tout de suite un message de Lionel à Kinshasa en RDC.
Bonjour les voisins. Moi je pense qu'il n'y a pas une manière générale pour régler le problème. Quand on a un conflit avec le voisin par exemple, pour réussir en tout cas à avoir de meilleures relations, moi je pense au centre, il faut que les respects soient vice-versa, qu'on se respecte mutuellement. Et régler le problème, il faut savoir qu'on a tort. Et quand j'ai tort, il faut que j'aie le courage d'aller voir l'autre pour présenter mes excuses. J'ai un témoignage rapidement. J'avais le problème avec mon voisin. Je ne voyais pas comment aller présenter mes excuses. Et d'entre-temps, le conflit faisait que ça aggravait du jour les jours. Et moi, j'attendais une occasion plus meilleure, exceptionnelle. Je n'avais jamais eu cette occasion. Un jour, finalement, on s'est retrouvés dans un day. On était tous les deux du quartier. Et c'est présenté à ce day. Je saisis l'opportunité. Je l'ai réglé. Et aujourd'hui, vraiment, on est dans de très bonnes relations.
Alors, ce voisin nous parle de respect et également aussi peut-être de moments. Est-ce que le respect et la façon de saisir les opportunités aussi pour se parler, c'est important selon vous, Brigitte Kerrer ?
Oui. Alors d'abord, je voudrais dire bonjour à Kinshasa.
Nombreux. Hein.
Oui, mais voilà, ça va faire des grands bonjours et beaucoup de bonjours. Alors, j'ai bien aimé la manière dont le monsieur a expliqué comment il voudrait obtenir le respect de l'autre et soit lui-même respecter l'autre. Le problème, à mon avis, mais je pense que ça pourra se vérifier, le problème, c'est que si on reste dans une dynamique d'avoir tort et avoir raison, on sort pas de l'auberge. Mmh. Et l'idée, c'est que vous vous couchez le soir, vous avez raison, vous avez tort, le conflit n'a toujours pas avancé. Alors l'idée, est également, malheureusement, la notion de respect est très différente pour les uns et pour les autres. Oui. Et alors du coup, une des meilleures choses peut-être à faire au départ, parce que faire des excuses, c'est pas forcément ce que l'autre voudrait, c'est de comprendre d'abord quel est le problème, vraiment c'est la première chose, quel est le conflit de part et d'autre, et la deuxième chose, de demander à l'autre, mais en fait, tu c'est quoi que tu voudrais vraiment, et puis ensuite dire ce qu'on voudrait soi-même, et finalement arriver à dire aussi ce qu'on ressent, et qu'est-ce qui ferait avancer le conflit, et on voit tout à coup que le mot respect, c'est pour ça les grands, amour, oui, respect, là, les grandes cathédrales, souvent ne règlent pas le conflit.
Mais ça voilà, veut dire, alors sur cette idée qu'énonçait notre auditeur Lionel, sur l'idée qu'il y aurait un moment favorable, en fait, propice à au règlement du conflit, vous n'y croyez pas?
Alors ce que je trouve très intéressant dans les mots utilisés par Lionel, enfin ceux qui m'ont marqué, c'est vraiment saisir l'opportunité. Oui. Quand il est dans cette démarche-là, ça montre qu'il a déjà fait un grand travail finalement, parce que quand il y a un conflit, la première chose, c'est que ça vient quand même titiller des zones assez reptiliennes et archaïques de notre cerveau. Donc on est dans des fonctionnements qui sont des fonctionnements de stress, et l'agressivité est un de ces types de fonctionnements. Donc pour être dans une démarche déjà de dire j'attends et je saisis l'opportunité, c'est qu'il a réussi quelque part à décoller et à sortir de cette zone reptilienne pour aller sur un fonctionnement qui est un fonctionnement plus adaptatif. Donc à mon avis, il était déjà bien parti, entre guillemets, pour que ça se résolve et que cette histoire se termine bien. Parce que tant que vous n'avez pas fait ce pas et que vous êtes encore soit dans la fuite, soit dans l'agressivité, bon, bah, c'est que vous n'avez pas fait l'effort, quelque part, de poser vos lunettes pour voir la situation avec d'autres
verres. On avance un message d'Ousmane à Bobo Dioulasso.
Bonjour à tous les voisins et voisines. Moi, c'est Ousmane depuis Burkina Faso. Pour vouloir prétendre avoir une bonne relation avec son entourage et désamorcer les conflits, il faut tout d'abord avoir une bonne connaissance de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi et à ce moment, on pourra comprendre l'autre. Souvent, j'aide mon ami dans sa gestion de boutique de transactions. Généralement, les amis du quartier viennent s'endetter, viennent prendre prêt. Je les donne. Et ils me donnent un délai de remboursement. Une fois le délai arrivé, souvent d'autres ne viennent pas signaler qu'ils n'ont pas pu être en possession de l'argent. Donc je les fais savoir que je les ai donnés à cause du délai. Je les mets à ma place. Je les montre que c'est des délais respectés qui m'ont permis d'accumuler l'argent que j'ai. Et la somme que je les ai donnée, c'est parce que j'ai cru en d'autres qui ont pris crédit et les ont remboursés. Si ils ne le font pas, d'autres viendront et n'auront pas la possibilité d'avoir la somme voulue. Mon business se gâte, eux le leur aussi. Car prochainement, je vais perdre confiance en eux. Du coup, ces personnes comprennent. La prochaine fois, quand ils viendront pour prendre la somme, ils font de leur possible pour remettre la somme à temps.
Bon, oui. Expliquer, faire de la pédagogie, alors, ça marche dans les conflits, ça?
Oui, pas souvent, et malheureusement, l'autre, quand il est énervé, et comme disait Elodie, quand il est dans sa phase reptilienne où il est réactif, les choses ne marchent pas toujours. Je pense, pour revenir à votre question de tout à l'heure, il y a effectivement des cycles dans le conflit. Et puis, si vous prenez les choses de manière préventive, si on s'imagine que le conflit, c'est comme une horloge, si vous prenez le conflit à 8h, 9h, 10h, ça va encore, c'est sûr que s'adresser au conflit quand c'est midi et que ça brûle, ça marche pas très bien. Donc l'idée, c'est que parfois, les gens doivent s'entretuer, hein, parce que c'est comme ça et que c'est tellement, tellement cuisant, et attendre que le conflit redescende. Alors 2h, 3h, 4h, pour ensuite s'adresser au conflit et éventuellement s'arranger pour qu'il ne recommence pas. J'ai bien aimé chez Ousmane, bonjour Ousmane, les trois concepts suivants. La bonne connaissance de soi, et je peux vous assurer, pour avoir fait énormément de négociations internationales, c'est épouvantable lorsque vient à la table des négociations ou lorsque viennent des gens qui sont eux-mêmes en conflit avec eux-mêmes. Donc vous avez un problème entre A, B et C, et vous avez le médiateur ou le négociateur qui arrive et qui rajoute encore un conflit D ou E, et là c'est vraiment la fin des haricots. Donc se connaître soi-même, peut-être régler son conflit avant d'aller voir l'autre, et puis l'autre chose qui m'a plu aussi, c'est le principe d'un médiateur, c'est réussir à se mettre à la place de l'autre. Ça ne veut pas dire que, Elodie, on va ce soir au cinéma, mais j'imagine comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses, et je me rends compte que si par exemple, par rapport rapport à la tour de Pise, vous, vous la voyez du côté de gauche, moi, je la vois du côté droit, et aucune des deux n'a raison ou tort. Mais on a des perceptions différentes.
Ouais, et puis on ne pourra pas la redresser. De toute façon, Oumi, à Dakar, dit « Moi, je pense que les problèmes de conflit et d'altercation sont dépassés. On ne doit plus perdre de temps à répondre aux provocations, ou pire, à en provoquer. Je travaille dans un centre d'appel. J'ai affaire à toutes sortes de clients, mais je laisse passer. Je ne m'en fais pas trop. » Sagesse ou pas, Oumi, pour vous, Élodie Melzarek?
Alors, c'est intéressant, parce que c'est une forme, finalement, de stress aussi, la fuite. C'est-à-dire, je laisse couler, je ne réponds pas. Est-ce la meilleure solution? Il y a des profils pour lesquels, effectivement, ça va plutôt apaiser. Parce que quand vous avez un profil type vigilant, qui n'aime pas être épié, qui n'aime pas qu'on soit sur son dos, bah, que vous laissiez couler, que vous ne donniez pas trop de nouvelles, qu'il n'y ait pas une manière particulière de surenchérir, c'est parfait pour lui. Mais quand vous avez affaire à d'autres types de personnalités, au contraire, ça peut être vu comme une provocation. C'est-à-dire que le silence ou l'absence est déjà un signe, est déjà une expression. Et alors, je voulais juste revenir aussi sur ce que disait Ousmane. Effectivement, très intéressant la dimension empathique et pédagogique dont il fait preuve, qui est tout à fait judicieuse. Et la connaissance de soi, moi c'est vrai que je fais une partie assez importante dans mon ouvrage sur la connaissance de soi avec des tests pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on se situe soi, pour comprendre qu'on a un impact sur la relation. Et qu'on le veuille ou non, on dégage quelque chose.
Est-ce qu'on est un conquérant? Est-ce qu'on est un pragmatique? Est-ce qu'on est, c'est ça, hein,
bien sûr,
un type de personnalité.
Exactement. Et la façon dont on se positionne soi, de manière volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, a de forts impacts déjà sur la relation. Il y a plein d'expériences assez amusantes en psychologie sociale, notamment qui montrent comment des groupes d'étudiants qui doivent faire passer un test de labyrinthe à leurs rats, et bah, selon qu'on leur dit « Ah, vous avez de la chance, votre groupe de rats, c'est les meilleurs rats qui soient, ils vont vraiment réussir le test, c'est sûr. » Et vous prenez un autre groupe d'étudiants et vous leur dites « Ah, pas de bol, hein, vous, vos rats, ils sont bêtes comme choux, jamais ils arriveront à passer le test. » Bien sûr, en définitive, ce sont les mêmes rats. Eh bien, c'est ceux à qui on a dit « Vous allez réussir, vous avez les bons rats qui réussissent. » Donc, vous voyez bien qu'il y a une part d'intention et d'intentionnalité qui peut tout à fait être importante et avoir des conséquences.
Alors, on entendait le témoignage d'Oumi à Dakar qui travaille dans un centre d'appel. Oui. Il y a quand même des métiers où on est plus ou moins exposé aux conflits potentiels, aux conflits ordinaires, mais ô combien difficiles à gérer. Je voudrais vous faire écouter un tout petit reportage, un petit témoignage, si vous êtes d'accord.
Avec grand plaisir.
Parce que désamorcer les conflits, ça fait aussi partie du métier de Taffré, qui est conducteur de bus en région parisienne. Chaque jour, il transporte des centaines de passagers énervés. Ndey Alatiba l'a suivi dans son service sur une route en travaux.
Quand on a plus de 1000 personnes qui empruntent notre ligne, surtout sur le 183, une ligne qui charge énormément. Il faut zigzaguer entre les camions de chantier, entre les voitures mal garées. L'hiver, le printemps, ça va, les gens ils sont contents d'être dans le bus parce qu'il fait chaud, mais ça se complique en été, parce que vu qu'il y a beaucoup de collègues en vacances, il y a moins de bus, il y a moins de fréquences, les bus sont surchargés, et on n'a pas la climatisation, donc les gens sont beaucoup plus énervés, donc il y a beaucoup plus de conflits.
Et donc que vous m'expliquiez que vous avez été militaire auparavant, que ça vous avait aidé énormément pour apprendre à cerner vos différents interlocuteurs.
En fait, le milieu militaire, ça m'a appris la gestion du stress. Mais c'est autre chose pour canaliser les personnes un peu énervées parce qu'ils sont, c'est le matin, ils sont énervés, ils vont au travail. Donc nous, on essaye de gérer un peu tout ça et on doit vendre des tickets et conduire en même temps, c'est un peu compliqué. Pour éviter certains accidents, on doit gérer les automobilistes. On peut être encore aussi victime d'agressions. Il y a carrément des automobilistes qui ont suivi des collègues jusqu'au terminus pour pouvoir se venger suite à un conflit et de la circulation.
Et là, ça se passe comment en fait?
À nous, c'est procédure, on ne peut pas agir de nous-mêmes. Même la légitime défense est parfois compliquée. Donc c'est pour ça que je vous dis, on est souvent en situation de stress parce qu'on doit gérer la route et les clients.
Est-ce qu'il existe un protocole particulier dans les situations conflictuelles?
En fait, on n'a pas de protocole de base. On essaye de gérer chaque situation d'une manière différente parce que toutes les personnes ne sont pas pareilles. Certains vont utiliser l'humour ou la pédagogie et on gère en fonction de la situation en fait. Déjà on voit le passager, on le juge à l'attitude. On le sent, on sent que la personne est énervée, donc au début on dit rien. Si elle s'en prend à nous, on essaye de gérer ça. Chacun gère à sa manière. Moi j'essaye de rigoler un peu, oui monsieur c'est pas grave, machin. Ou il y en a qui essayent d'expliquer, il y en a qui comprennent pas. S'ils comprennent pas, on laisse passer, on prend sur nous. C'est pour ça qu'on discute entre collègues, ça nous aide à dégager ce stress qu'on a en nous. Tous les jours, on a les mêmes cas des voyageurs énervés. Tous les jours, on peut être victime d'une agression ou agresser quelqu'un nous-mêmes. Donc, pour faire ce métier, il faut vraiment être quelqu'un à la base de cool. À la base, et avoir beaucoup de recul, c'est la base du métier.
Et qu'est-ce que vous faites alors concrètement pour pouvoir accueillir vos usagers de manière paisible?
Ben en fait, quand j'ai du temps au terminus, par exemple à la mairie, j'ai mes 20 minutes, donc je marche, je me relaxe, je pense à autre chose. Après le boulot, je fais du sport. C'est ce qui m'aide aussi beaucoup. Et c'est important de faire du sport et avoir une alimentation saine.
Voilà, il y a vraiment quand même des métiers plus exposés que d'autres hein, à ce type de conflit ordinaire.
Absolument. Je voudrais juste rapidement revenir à Oumi qui disait qu'il faut laisser passer et avec ce processus de fuite. Le problème, c'est que le conflit, un petit peu comme quand vous avez un enfant qui vous tire par la manche, c'est pas en le mettant sous le tapis qu'il va se régler. Au contraire, le problème, c'est qu'il va grandir. Et à mon avis, un des secrets de la gestion de conflit, c'est quand même de s'adresser au conflit le plus rapidement possible et essayer de voir ce qui se passe et pas faire semblant. Ça, c'est la première chose, parce que malheureusement, ça fait partie de désamorcer les conflits, parce qu'on se couche, on se dit « ça y est, j'ai réglé le problème », et en fait, il est encore là de manière complètement entière. J'ai beaucoup aimé votre reportage du chauffeur de bus qui est obligé d'être zen et je trouve que il a beaucoup de sagesse ce monsieur et du recul. Néanmoins, je pense également, en rigoler c'est bien, mais en même temps pouvoir dire au moment opportun, et ça passe vraiment par dire au moment où vous le ressentez que ça va pas, monsieur, comme vous me parlez, là, dans le bus, de pouvoir s'adresser directement à la personne, et puis ensuite pouvoir partager avec d'autres personnes en disant « dis donc, tu sais ce qui m'est arrivé », est une manière assez saine d'évacuer le conflit. Donc, ne pas le garder en soi.
Ouais, ne pas créer de cocotte minute à l'intérieur des individus. Elodie Mielzarek, il existe donc différents types de personnalités, vous le disiez. Est-ce que vous partez du principe qu'on peut changer l'autre ou pas, en fait? Quand vous parlez de ce que vous appelez la bascule cognitive, qu'est-ce que c'est exactement? On a une personne en face de soi, assez désagréable.
Alors là, on touche le point le plus intéressant, à mon avis. Dans le premier témoignage qu'on a entendu, la personne nous disait il n'y a pas de généralité possible, on est chacun des individus. Et bien ça, c'est assez juste. C'est-à-dire qu'effectivement, on est chacun des individus, des personnalités, avec nos qualités, nos défauts, et c'est difficile de tirer des grandes lignes par rapport à ça. Je me permets une citation de la philosophe Hannah Arendt, qui faisait le distinguo justement entre la bios et la zoé. La bios, c'est notre vie autobiographique, c'est notre personnalité à nous, notre propre chemin de vie. Et puis la zoé, c'est plutôt la vie de l'espèce humaine. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est d'avoir ça comme préalable, de dire ok, on est tous différents, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des fonctionnements qui sont des fonctionnements davantage cognitifs, physiologiques, et qui correspondent davantage à des positionnements en termes d'espèce, c'est-à-dire comment instinctivement on se situe les uns par rapport aux autres dans un groupe social. Et là, on arrive finalement à des fonctionnements qui sont à la fois archaïques et pas si créatifs. Mmh. On pourrait penser qu'il y a 36 000 façons de se positionner les uns par rapport aux autres. Eh bien non. Quand on regarde, et moi c'est ce travail-là qui m'a beaucoup intéressé au niveau de l'éthologie, qui est l'étude des comportements animaliers, eh bien dans
dont
une meute
partie,
de loups et de
voleurs.
Exactement, les animaux. C'est-à-dire qu'on peut se dire très évolué, mais en définitive, notre personnalité, elle se construit sur des ressorts archaïques, notamment parce que c'est dans des zones du cerveau tout à fait spécifiques. En revanche, pour répondre très précisément à votre question, donc, la personnalité, si vous voulez, vous naissez avec. Ouais. Elle est dans ces régions archaïques. Elle ne va pas bouger.
Les grandes figures, le chef de meute, vous
voilà,
faisiez
tout à
allusion
fait,
au loup.
Le conquérant, ouais, tout à fait, le mâle alpha. Il va y avoir les loups qui partent à l'orée du bois pour hurler aux autres meutes qu'il ne faut pas rentrer dans ce territoire-là. Ils ont une vie qui est plutôt solitaire. Le loup solitaire, c'est celui que j'appelle le vigilant. Et puis, il y a des types de loups qui gèrent la cohésion dans l'équipe pour savoir si chacun est heureux, s'épanouit dans cette meute émeutes-là. C'est plutôt ce que j'appelle le syntonique. Et puis, il y a des loups qui veillent à la procédure, au bon fonctionnement, à la répartition des ressources au sein de la meute. Et ça, c'est plutôt ce que j'ai appelé les pragmatiques. Et ça, il
y a les pragmatiques, c'est quand même la bonne espèce, hein, moi, je trouve, non ? Globalement, c'est pas par eux qu'arrive
alors,
le conflit.
Alors, il n'y a pas bon et mauvais. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde, et notamment les travaux de Boris Cyrulnik dans l'histoire de la folie avant la psychiatrie, eh bien, il vous dit, peu importe les époques, peu importe les continents, il y a toujours eu 2% de bipolaires et 1% de schizophrènes. Alors moi, je ne m'intéresse pas trop à ces questions de pathologie et de psychopathologie, mais en revanche, je fais le dessin et le pari que ces types de positionnements, on les retrouve au sein de l'espèce humaine, et peu importe les cultures, et peu importe les continents.
Oui, alors je voudrais revenir sur la question de changer l'autre ou pas, parce que c'est un petit peu la question tarte à la crème. Et puis, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle.
Attendez, c'est une question centrale
Mais je crois que j'ai une mauvaise nouvelle.
Oui, la personnalité.
J'ai une mauvaise nouvelle.
On ne peut pas changer l'autre.
Non. Voilà. En revanche, on peut se changer soi, changer sa perception des choses et des événements, et voir l'autre prendre ou pas une autre posture. Donc ça appartient quand même à l'autre s'il veut changer
Résoudre
ou pas.
Résoudre un conflit, forcément, on a fait évoluer
oui.
l'autre.
Alors on a réussi à démontrer quelque chose quand dans un groupe, dans un système, une personne change, décide donc de vouloir dialoguer avec l'autre pour comprendre ce qui se passe parce qu'il a envie de se débarrasser de quelque chose qui bouffe le foie, quoi, quand même. Le conflit, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir. Et puis, si vous ne voulez pas le résoudre, il est encore là. Il est encore là le lundi, le mardi, mercredi. Alors, l'idée, c'est quand vous changez, à un moment donné, il y a de fortes chances que tout le système change. Et ça marche à 99% des cas.
Vous nous appelez les voisins et les voisines, je crois que vous avez compris le sujet. Il n'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Le conflit, comment sortir du conflit, comment gérer le conflit, mieux comprendre aussi à qui on a affaire, cerner son interlocuteur. 33 1 84 22 71 71, appelez-nous pour nous parler d'une situation difficile que vous vivez à l'heure actuelle ou que vous avez vécue et peut-être parlez-nous des leçons que vous en avez tirées. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
C'est génial.
Aruna nous appelle de Niamey au Niger. Bonjour Aruna.
Oui, bonjour Emmanuel Bastide, vous allez bien ?
Eh ben, très bien, soyez le bienvenu. On vous écoute, donc vous avez tenu à préciser au standard qu'en fait vous tenez surtout compte du niveau intellectuel de votre interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Absolument.
Oui.
Parce que ça, voilà, je tiens compte du niveau intellectuel, du niveau d'étude de mon interlocuteur, surtout de sa culture. Parce que là, tout à l'heure, j'avais eu à dire ça à votre collègue, là. Mmh. Bon, il a dit de lui donner un exemple. J'ai l'exemple, c'est qu'on est, j'étais à un dîner de gala, là, et il y avait un chef traditionnel, là, à Niamey, au Niger, qui avait dit que Jacques Chirac était de Paris. Mmh. Je lui ai répliqué que Jacques Chirac est de la Corrèze. Mmh. Il soutenait Mordicus qu'il était de Paris.
Il était corrézien et de l'Élysée, en fait. Hein, donc, tous les deux avaient raison.
Oui. Alors, il y a même une phrase célèbre de la Corrèze aux Ambèzes. Alors, il a suivi Mordicus et un autre chef traditionnel, qui est son suppléant, qui lui avait prêté même pas. Bon, moi, je me suis dit, bon, quand je sens chose, aucune sans arrogance, aucune, bon, quand je compare mon niveau au leur, je me suis dit, bon, autant laisser les choses mourir de leur belle mort, comme dirait Giscard. Alors, quelques jours après, effectivement, il a eu le temps de vérifier, il est venu, et en prenant prétexte de lui expliquer qu'est-ce que c'est l'aune, c'est à l'aune de quelque chose. Alors, il a dit quoi? Parce que, voilà, il s'est rendu compte que, voilà, il avait des limites culturelles, des limites intellectuelles.
Donc, c'est lui-même qui est revenu vers vous d'une manière un petit peu détournée pour vous faire comprendre que vous aviez raison, c'est ça?
Absolument, quelques jours après, oui.
C'est ça. Et vous lui avez épargné de perdre la face en ouvrant, peut-être à l'époque c'était pas un smartphone, mais un dictionnaire, en lui disant on va vérifier tout de suite.
Ah oui, non, parce que moi là, je n'ai pas.
Ça aurait été l'humiliation quand même, là.
Oui, non, je n'ai pas voulu. Quand il a dit, il m'a dit va vérifier. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de vérifier, mais je soutiens Mordicus que, voilà, bon, là, on n'a pas voulu vérifier. Surtout son adjoint, c'est un minister même. Là, maintenant, bon, mais j'ai laissé les choses. Mais je suis sûr que lui, il est parti, il a vérifié. Il a vérifié, il est revenu. Maintenant, il s'est rendu à l'évidence que ce que je disais était vrai. Voilà.
Vous avez évité un conflit avec un chef traditionnel. Merci beaucoup, Aruna, de nous avoir appelés. Mais alors là, ça ne s'appelle pas mettre le conflit sous le tapis, finalement, non, Brigitte Kerrer?
Non,
ça s'appelle laisser les choses retomber tranquillement.
Non, je remercie Aruna pour son exemple. C'est vrai qu'il y a peut-être des niveaux de langage différents, mais au fond, le mécanisme du conflit est le même, que ce soit chez les Inuits, ou que ce soit en Nouvelle-Zélande, ou que ce soit à Paris, ou à Niamey. C'est-à-dire que vous rentrez en conflit avec l'autre, parce qu'en guillemets, vous n'êtes pas d'accord, et que vous vous accrochez à quelque chose qui s'appelle avoir tort ou avoir raison. Et puis, je comprends que c'est important dans la culture africaine. J'admire d'ailleurs les systèmes de médiation qu'il y a dans certains pays, et j'en connais vraiment certains qui utilisent la médiation bien mieux que moi, mais néanmoins, il se trouve qu'avoir raison par rapport à l'histoire de Chirac, ou qu'il soit de Corrèze ou de Paris, la partie amusante de l'affaire, c'est qu'en fait, il vient des deux. Et que du coup, ça réunit les gens de ne pas vouloir avoir raison ou tort et simplement de se dire « bah tiens, c'était un dialogue, je vais vérifier. Ah bah tiens, j'ai trouvé qu'il était de Corrèze. » Et puis l'autre dit « non, en fait, il habite aussi à Paris. » Du coup, ça dédramatise les choses et ça permet au conflit de descendre.
Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous êtes très nombreux à souhaiter vous exprimer. Qui on a au téléphone? Hakim nous appelle de France, de région parisienne. Où êtes-vous, Hakim, exactement? Non, vous êtes en France. Soyez le bienvenu, Hakim.
Merci. Bonjour, Emmanuel Bastide. Bonjour, les voisins.
On vous écoute.
En fait, moi, je travaille dans un centre d'hébergement d'urgence. Donc, des fois, on a des personnes qui viennent et qui sont fort alcoolisées. Donc, ils peuvent avoir on peut arriver à des injures. Et des fois, on est un peu démunis face à des situations comme ça. Et je veux savoir comment on peut gérer ce genre de situation.
Comment on gère ça, Élodie Mielzarek, effectivement? À la base, on est sur du conflit potentiel permanent, en fait.
Oui. Alors, vous parliez justement de cette question de la bascule cognitive, qui est en définitive le fait de solliciter d'autres zones du cerveau que la zone où se construit la personnalité, mais aussi la zone des valeurs, des croyances. Là, l'idée, c'est de venir solliciter la zone préfrontale. Et il y a quelques astuces pour ça. Le questionnement, le fait de se poser soi-même des questions, c'est une très bonne technique, de se dire, dans le fond, est-ce si grave? De défocaliser.
Vous avez une personne alcoolisée, comme dit Hakim, très agressive, très énervée.
Oui, mais donc, parce qu'en fait, il faut que Hakim comprenne que quand il est face à cette agression-là, effectivement, il l'a dit lui-même, la personne est alcoolisée, donc ça veut dire qu'elle n'a pas, elle a un biais de représentation du réel, si vous voulez, elle n'a pas une bonne perception du réel. Donc on se décolle soi-même de sa propre perception à soi, c'est-à-dire qu'il faut sortir de sa vision égocentrée. Alors attention, je vous dis ça, ça paraît très facile à faire, je suis tout à fait consciente que c'est plus délicat à mettre en œuvre.
Mais concrètement,
c'est prendre conscience qu'il est pris comme un symbole de quelque chose qui n'est pas lui, c'est-à-dire que ce qui est attaqué, c'est pas Hakim, sa personne. Personne en tant que telle, en tant que travailleur.
C'est le centre d'hébergement.
C'est lui ce qui représente à ce moment-là, à cet endroit-là particulier. Mais c'est plus dans son rôle et dans sa fonction sociale. Donc c'est autre chose. Donc il faut bien faire la différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. C'est pas tout à fait la même chose. Et je continue sur cette question du questionnement. Le est-ce si grave finalement, qui permet, ne serait-ce que de se poser cette question-là, de décoller de ses certitudes et de ses croyances. Et comment décoller encore plus fortement justement de son propre être, de son propre égocentre? Eh bien, se poser la question de dire, par exemple, qu'en penserait Barack Obama de cette situation-là?
Oui,
ou
mais là, dans
ou qu'en penserait mon chat?
Si, si, je suis d'accord,
si, parce que l'idée, c'est justement, quand je vous dis faire la bascule, je fais référence aux travaux notamment de Jacques Fradin, qui a fondé l'Institut.
Attendez, rapidement,
de...
on ne va pas faire des citations de pour vous dire
que la bascule, c'est le questionnement qu'on se fait à soi-même. Et le questionnement, c'est décoller, de dire Barack Obama, il en penserait quoi là?
Brigitte Carré.
Alors, bon, vous
rapidement,
trouvez,
parce qu'on a plein d'auditeurs qui
travaillent dans des centres d'hébergement et d'immigration. Très rapidement, quand vous avez quelqu'un d'alcoolisé, évidemment, il n'est pas dans son état normal. Mais l'idée est que toute personne qui est agressive ou qui est en colère, si on arrive à comprendre que c'est l'expression maladroite d'un besoin que la personne a, on peut aller à sa rencontre, ne pas le prendre personnellement et tout de suite lui dire de quoi t'aurais besoin maintenant, qu'est-ce que
sauf
je peux faire pour toi, et à ce moment-là l'autre se sent quand même entendu. Je pense qu'une des une des solutions, c'est que l'autre se sente entendu et son agressivité descend déjà un tout petit peu.
Et puis, tout simplement aussi, parfois, baisser d'un cran le ton de sa voix et ralentir son débit de parole, ça peut aussi donner un climat un petit peu plus apaisé. Hakim, merci beaucoup de nous avoir appelés. Ne nous en voulez pas. Beaucoup d'autres auditeurs, voisins, voisines veulent questionner nos invités. Christian, Diesel est à Brazzaville. Bonjour, Diesel.
Bonjour, Emmanuel. Bonjour à tous.
Diesel, vous avez 26 ans, vous avez eu un problème d'argent emprunté, non remboursé?
Oui, exact, avec l'enfant de ma tante, mon cousin direct.
Avec votre cousin, oui.
En fait, il va prêter de l'argent. Dans un premier temps, c'était juste lui et moi. Les autres ne pouvaient pas savoir parce que c'était un peu privé. Et le problème est qu'il m'a étalé au sein de la famille et tout le monde est au courant qu'il m'a prêté de l'argent. Et il me met la pression à ce que je le rembourse. Et moi, je veux le faire comprendre qu'il aura son argent bientôt, là. Le problème est qu'il ne veut plus savoir rien de moi, il ne veut plus même me dire bonjour. Moi, quand je lui dis bonjour, il ne répond pas. Mmh. Et cela dure un mois déjà.
Mmh. Et le fait qu'il ait rendu public ce problème, effectivement, ça n'arrange pas les choses. On peut même dire, est-ce que ça envenime le conflit, Brigitte Kerrer?
Alors, je merci Diesel de votre question
de d'argent. Dette, parce qu'il y a des histoires d'honneur hein, quand même dans les dettes.
Alors, hein. À la base, bien entendu, et personne n'a envie de perdre la face, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense que pour l'argent emprunté, à un moment donné, comme dans toute bonne médiation, vous pouvez dire, vous, écoute, moi, je peux pas te rendre de l'argent avant 2 mois. Hein, je donne un exemple concret. Et l'autre, en face, il aimerait bien avoir l'argent dans les 6 semaines. Alors, l'idée, c'est que vous devez vous asseoir et négocier et dire, OK, comment je peux faire peut-être par petites tranches pour que tu sois entendu, que je puisse te donner déjà une partie de l'argent maintenant et que ensuite je puisse te donner le reste de telle sorte que des deux côtés les besoins soient entendus. Il n'y a absolument pas de gestion et de résolution de conflits si vous ne prenez pas en compte aussi le besoin de l'autre.
Et puis, de ce qu'il me semble, effectivement, est-ce que vous avez été précis sur l'engagement que vous avez tenu, de dire « je vais rembourser », il faut apporter des éléments factuels, à savoir quand est-ce que vous comptez rembourser et quel type de montant. Et ça permet effectivement de rassurer aussi votre cousin et d'être vraiment factuel et de s'engager sur ces éléments-là.
Merci à vous, Diesel. J'espère qu'on vous a aussi un peu rassuré, donné des pistes pour débloquer la situation. Mais il est sûr que quelques monnaies sonnantes et trébuchantes seront plus efficaces que tous les discours. Christian nous appelle de Ouaga au Burkina. Bonjour, Christian.
Bonjour, Emmanuel.
22 ans et déjà des problèmes de conflit.
Oui, en fait, j'ai des soucis avec mes voisins.
Oui.
Et chaque soir, ils ont des problèmes de couple.
Oui.
La situation s'envenime et rapidement, et cela m'empêche de dormir.
Oui.
Alors, un soir, alors qu'il commençait, je leur ai demandé s'ils ne voulaient pas un haut-parleur pour que tout le quartier puisse les entendre.
Ça a dû les énerver encore.
Alors, rassurez-nous, quand vous dites problème de couple, il n'y a pas d'agression physique grave, hein, y a pas une épouse qui est battue, là. D'accord.
Non, c'est des disputes. De bec.
D'accord, des disputes qui n'en finissent plus. Donc, oui. Bah voilà, une petite proposition pleine d'humour. Et donc.
Ça a eu pour effet de détendre l'atmosphère. Tout le monde a rigolé et chacun a bien dormi.
Ah, très bien. Bon, formidable. Merci, Christian, pour ce témoignage. Un témoignage que je voudrais vous lire de Grâce, qui est à Kinshasa, qui dit « Mon voisin utilise mes sanitaires sans mon accord. Quand je le surprends, il m'insulte. Alors que je suis dans mon droit, comment dois-je gérer ?» Il faut aussi se représenter le voisin qui est surpris dans une position qui est quand même où on est vite dans une situation d'humiliation. Hein. On est quand même dans la situation la plus intime et la plus privée qui soit pour ses besoins élémentaires. Alors, comment réagir en tant que propriétaire de sanitaire ?
Bah d'abord dire. De manière répétée et insister pour dire que c'est pas possible, que ça va pas, qu'on n'est pas d'accord.
Mais faut-il le faire au moment de l'action ?
Non. Alors ça, c'est une très bonne question, Emmanuel. Je pense que dans toute gestion de conflit, il y a un moment où on peut dire, par exemple, je vous dis, Emmanuel, j'ai un petit problème avec vous pour les toilettes, là, à RFI. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où je peux vous parler ? Et c'est sûr que si je viens maintenant, vous allez me renvoyer bouler. Donc on va demander à quel moment vous êtes d'accord de parler avec moi, trouver un moment où on peut boire la tasse de thé et dire, bon, bah, écoutez, voilà, j'ai ce problème-là. Et ensuite, une des astuces, c'est de dire comment est-ce que nous pourrions régler ce problème ? Dans le sens, on se met les deux dans le bain et puis du coup, on écoute l'autre. Voilà, quelques pistes.
Hein. Élodie Mielzarek.
Moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que quand on rentre sur ces questions de désamorcer les conflits, à un moment donné, on s'intéresse à la question des cons, des connards, et des connes et des connasses, puisque la parité, il faut la respecter aussi dans ce cadre-là. À mon avis, parfois, on est trop dans le consensuel et le politiquement correct. Oui. Et je pense que ça peut être la limite de ce type d'approche, de dire il faut être dans la médiation, il faut être dans l'écoute, dans l'empathie. Ça, pour moi, c'est une étape qui est tout à fait nécessaire. Mais quand elle n'a pas fonctionné, il y a d'autres méthodes. Et je me suis rendu compte, et notamment dans les témoignages que j'ai recueillis, que l'humour dont parlait votre éditeur, de dire « tiens, vous voulez un mégaphone, comme ça tout le monde va vous entendre », l'humour, c'est un très bon outil pour faire la bascule à soi-même et aux autres. Et puis souvent, le parler cache. C'est-à-dire que, c'est justement, ça. Mettre les pieds dans le plat, quitte à être un peu, excusez-moi, mais violent dans les termes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir de ce côté ouaté, ce côté bienveillant qui, quand il n'avance pas, il n'avance pas. Et parfois, le parler cache permet
finalement.
Exactement,
mais
s'affirmer.
Quitte à prendre le risque que ça envenime le conflit.
Oui, parce qu'à un moment donné, de toute façon, quand vous avez un besoin et que vous devez l'exprimer, s'il n'a pas été entendu, eh bien moi, je suis... dans les témoignages que j'ai recueillis, oui. Je me suis rendu compte que, notamment sur au niveau des lieux de travail, et bien souvent, quand les personnes montaient un petit peu le ton en disant « Non, mais écoutez, là, moi, ça ne me va pas parce qu'il y a ci, ça, ça », et bien, quelque part, ça faisait bouger les autres.
C'est-à-dire sans être dans l'agressivité et l'insulte.
On est bien d'accord.
Là,
mais l'affirmation de soi, ce n'est pas forcément l'agressivité.
Vous parlez bien, donc, finalement, de fermeté.
Exactement.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elodie, mais je vois la piste que vous empruntez. Personnellement, je suis convaincue, comme on le disait tout à l'heure, si vous m'agressez et vous parlez très fort, et si je réponds de manière assez calme, mais en disant fermement ce que je veux, ça aura plus d'impact que si je fais justement escalader les mots désagréables. Je pense aussi, comme vous, qu'on est dans une société trop consensuelle, et je pense que, malheureusement, nous sommes souvent dans le chantage affectif. Oui. C'est-à-dire, je me dis, je vais être sympa avec Emmanuel, hein, puis sous-entendu, vous allez être sympa avec moi. Et devinez quoi, c'est pas du tout ça qui se passe. Donc l'idée, c'est pas d'être trop consensuel et de la fermer, mais de dire les choses.
Vous nous dites ça après plusieurs mois de gilets jaunes. Hein. La France est une société trop consensuelle.
Redire ce que l'on veut. Et parfois, ça dure très longtemps. Le conflit existera toujours. C'est la violence qui est optionnelle.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de la gestion du conflit, comment cerner son interlocuteur. Et on n'a pas encore complètement parlé de la place essentielle du corps. On a parlé certes de la voix, mais il y a beaucoup de choses aussi à dire dans la façon dont nous remuons notre corps et quels signes cela envoie à celui qui est en face. Or is there something in the air we breathe? 'Cause I'm feeling dizzy, dizzy, yeah. I was the party, was the treating you right. I wish that I could be there, but I'm under the bad, bad moon tonight. Baby, can you help me? Let me out, I'm trapped in a blur. Started out the way I wanted, but I swear now. Let me out, I'm lost in words. Too much in my head.
Foster the People chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en direct et nous désamorçons depuis le début de l'émission quelques conflits ordinaires énoncés par nos voisins et nos voisines. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Comment y voir plus clair? On l'a dit, on ne changera pas son interlocuteur, celui qui vous pourrit la vie au quotidien, mais on peut le faire évoluer et puis on peut faire bouger la situation, les plaques tectoniques qui sont autour de la personne qui est en face de nous. Ibrahim nous pose la question, il est à Niamey au Niger, il nous dit « J'ai un conflit avec mes voisins dans la nuit. Mon voisin regarde la télé trop fort. J'ai essayé de lui parler, mais il recommence à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait ?»
À part déménager.
je pense qu'effectivement, je lui ai parlé à plusieurs reprises. Bonjour Ibrahim. Pour information, j'ai habité 12 ans en Afrique. Donc j'ai aussi eu des voisins bruyants. Et je vois un peu de quoi vous parlez.
Ouais, dans les immeubles parisiens, c'est pas triste non plus. Les nuisances sonores. Hein, surtout dans les vieux immeubles. Et des cloisons très fines.
Les voisins qui ne se rendent pas compte. Je pense que c'est dans l'expression « je lui ai parlé » que se situe un peu toute la problématique. Comment vous leur avez parlé? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment vous avez décrit votre situation? Et à quel moment vous avez dit « bon, alors maintenant, vu qu'on a un problème, et vous, et moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce problème? Parce que moi, c'est juste plus possible. » Et je pense qu'à un moment donné, quand on vous marche sur les pieds, c'est important de dire « moi, j'ai atteint mon niveau, mon seuil de tolérance. Là, je suis juste, mais juste sur le point d'éclater. »
Corneille est un auditeur à Kindu, en RDC. Et lui, alors, il a des relations compliquées à cause de son chef. Il nous dit « parce que j'ai un niveau d'études supérieur à lui. Je lui ai remis un rapport il y a un mois. Il l'a contesté. On a saisi la hiérarchie pour arbitrer, la hiérarchie m'a donné raison, mais du coup les relations restent très tendues avec mon chef. Je fais des gestes pour me rapprocher de lui, alors gestes au sens symbolique, hein, j'imagine, j'en sais rien. Mais finalement, comment améliorer nos relations?
Alors, on parlait des cons tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a quand même trois questions à se poser. Et si la réponse est affirmative, ça montre que vous êtes quand même fragilisé. Une première question, c'est de savoir si le con en question, il a plus de pouvoir hiérarchique que vous. Si la réponse est oui, effectivement,
là, c'est
déjà un petit peu plus embêtant. Et c'est le cas ici. Est-ce que la fréquence à laquelle vous voyez cette personne, est-ce que cette fréquence est élevée ou est-ce que c'est temporaire. Donc plus vous êtes soumis à la connerie de l'autre, plus vous êtes fragilisé également. Est-ce que il y en a qu'un seul dans votre entourage ou est-ce qu'il y a plusieurs cons dans la hiérarchie? Ça, c'est aussi d'autres questions. Mais c'est pas si anecdotique que ça, puisque maintenant c'est prouvé que la connerie, elle est contagieuse. Donc il faut faire attention à ces types de profils qui sont des profils assez toxiques, finalement, au sein des organisations, qu'on retrouve assez communément. Et pour une simple et bonne raison, qui est qu'aujourd'hui, quand vous passez un entretien d'embauche, bah finalement, cette question des incivilités, cette question de la posture, elle n'est pas tellement posée. C'est-à-dire qu'on regarde votre CV, mais on ne va pas tellement vous poser la question de votre intelligence relationnelle, la façon dont vous positionnez
par
rapport à l'autre.
Qu'est-ce que vous savez faire, mais comment vous savez être au monde, ça, on ne vous le demande pas, effectivement.
Non. Et tout ça pour dire que lui...
Juste
pour finir, lui, visiblement, s'il pose la question, c'est que cette intelligence relationnelle, il a cette sensibilité de dire bah, j'ai un con au-dessus de moi, mais malgré tout je fais l'effort de me rapprocher de lui puisque c'est ce qu'il explique. Eh bien, la difficulté, c'est que si la situation ne change pas rapidement, c'est lui qui s'expose et qui se fragilise. Donc attention sur ce type de situation.
Alors, pour rapidement répondre
à Corneille... Vraiment en un mot, on a encore d'autres questions.
Je pense qu'à un moment donné, lorsque vous l'avez dit de manière répétée que vous n'êtes pas d'accord et que vraiment, vous avez de manière répétée dit à votre chef que vous vouliez quelque chose et vous n'arrivez pas à l'obtenir, c'est important, à un moment donné, de demander au chef ce qui se passe et de lui demander « mais pourquoi ?» il n'arrive pas à changer d'attitude. Et si effectivement, rien ne bouge encore, vous pouvez toujours faire appel à un tiers. Et c'est le principe de la médiation, c'est-à-dire soit une tierce personne qui sera ni pour le chef ni pour vous, mais qui va vous aider à faire avancer. Mais l'idée, c'est de comprendre pourquoi le chef ne bouge pas. Et à ce moment-là, peut-être, vous aurez avancé de quelques pas. Mais ne restez pas avec votre histoire indéfiniment, parce que quand elle n'a pas bougé, elle ne bougera pas.
On accueille un auditeur qui nous appelle de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise?
Exact.
Et vous avez dit au Standard que vous jouez un rôle de médiateur?
Oui,
en tant que chef d'entreprise.
Oui. Exact. En fait, on a une particularité un peu en Afrique, c'est qu'on a tendance à faire parfois des recrutements qui ne sont pas toujours basés sur le niveau de compétence uniquement.
Oui, forcément.
Et du coup, il peut en résulter forcément des gros conflits.
Oui.
Par exemple, lorsque vous mettez en situation deux personnes qui travaillent ensemble mais qui ne sont pas à niveau de compétence égale, et surtout quand la différence de compétence est vraiment criable.
Vous voulez dire quand une personne a été pistonnée et que l'autre a été recrutée pour ses compétences, c'est ça en gros. Donc après, ça ne fonctionne pas, d'accord.
Et donc,
comment vous faites alors vous, en tant que chef d'entreprise?
En général, j'utilise toujours la même méthode pour le départ, c'est de demander aux deux parties de s'asseoir d'abord ensemble. Et je demande à l'une des parties de ne pas vocaliser, en fait, de ne pas parler. En général, le plus calme des deux, c'est celui à qui je demande de se taire. Et je demande à l'autre d'expliquer pourquoi il a posé les actes qu'il a posés ou pourquoi il a dit les choses qu'il a dites. Et d'abord, le fait que l'autre soit obligé de se taire, ça permet qu'il se calme un peu.
Mmh.
Et ensuite, ça lui permet aussi de se mettre dans la perspective de son interlocuteur, de comprendre peut-être les raisons qui ont motivé l'action. Parce que souvent, les gens sont persuadés qu'une action est posée contre eux et non pour une raison professionnelle, par exemple. Donc, une fois qu'on a pu comprendre la perspective de l'autre, c'est plus facile de se mettre à sa place et éventuellement de réduire la raison du conflit.
Et c'est l'explication qui crée l'empathie. Merci beaucoup Stéphane de nous avoir appelé. Je voudrais avant qu'on se quitte quand même qu'on dise un mot sur la place essentielle du corps. Comment le corps parle dans ces situations, Brigitte Carrère?
Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire les mots ne sont que 20% de tout ce qui se passe entre les personnes et le 80% se passe ailleurs, dans le corps, dans la voix, dans les gestes. Et si je dis « Emmanuel, je vous aime », c'est pas la même chose que « Emmanuel, je vous aime ». Donc le ton de voix peut se modifier et le corps participe à ce que vous dites et amène une certaine énergie. Et lorsque votre énergie corporelle ne correspond pas à ce que vous dites, vous avez à ce moment-là du grésillement et vous avez ce qu'on appelle justement des espèces de non-alignement qui font que vous n'êtes absolument pas crédible.
Est-ce qu'il y a des positions du corps qu'il faut absolument éviter? Vous êtes assis à une table,
oui,
quelqu'un vient vous dire des choses désagréables et debout. Est-ce qu'il faut se lever impérativement, par exemple, Elodie Mielzarek? Quels sont les faux pas à ne pas commettre avec son corps?
Alors c'est vrai que souvent on dit que pour une négociation apaisée, notamment le fait que les chaises soient orientées à 45 degrés, bah finalement c'est un entre-deux qui permet ni d'être en face à face, ni côte à côte et de ne pas se voir. Donc ça, effectivement, ça participe à une relation apaisée. Il y a aussi plein d'autres études en psychologie sociale qui montrent à quel point nous sommes sensibles et à quel point notre inconscient capte de l'information. Par exemple, si vous êtes sur un fauteuil dur et on vous demande après comment vous avez trouvé cette négociation, bah vous allez avoir tendance à dire « Ah bah je l'ai trouvé un petit peu dur ». Si vous faites avec d'autres personnes, mais bien sûr je parle d'un protocole scientifique, donc tout ça est répété pour être validé, sur un siège avachi et que vous demandez alors cette négociation, comment ça s'est passé ? Oh bah j'ai trouvé que c'était plutôt mou. Donc tout ça, finalement, notre corps il capte de l'information. L'idée c'est même d'aller plus loin, c'est de jouer avec son corps et d'utiliser son corps dans la négociation. C'est-à-dire que quand vous savez que vous allez devoir vous affirmer, et ben c'est de jouer vous-même avec des postures affirmatives.
Et vous mettez les mains sur les hanches,
a beaucoup travaillé, ça c'est une posture de pouvoir, c'est la posture Wonder Woman, et elle a montré que pendant 2 minutes augmente le taux de testostérone dans le sang de 30%.
Et ben voilà, ça sera le mot de la fin, il faudra qu'on y revienne à ce sujet, vous étiez très très nombreux à souhaiter intervenir, merci à vous deux. Brigitte Carrère, médiatrice, vous publiez La médiation est un nouveau projet de société, point d'interrogation, se réconcilier avec ses contraires,
aux éditions
Dervy.
Voilà.
Merci à vous Elodie Mielzarek, la stratégie du caméléon s'adapter à tous les profils grâce à la communication non verbal. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission éducation comme chaque vendredi. Que dire et ne pas dire à nos enfants? Comment motiver au lieu de décourager? Guider au lieu de vexer? Comment en finir avec les petites phrases assassines? Et trouver enfin les mots justes. À demain.